Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole du Seigneur. La lecture, la première, nous propose déjà les débuts du ministère d'Étienne. Un homme rempli d'esprit, comme on le disait, un homme rempli de sagesse. Voilà qui s'est mis à prêcher, à répandre la parole de Dieu, l'Évangile, à annoncer Jésus-Christ. Mais arrivent des personnes qui viennent d'autres écoles du judaïsme et se mettent à arguer, à discuter avec lui. Et voilà que Jésus, qui était au centre de cette discussion-là, fait que Étienne va reprendre les idées, la prédication et même l'attitude de son Seigneur. Il résistera aux attaques intellectuelles que les personnes vont lui présenter, que ses adversaires vont lui présenter. Et voilà qu'il en sort la tête haute. Et les autres sont comme humiliés. Mais n'acceptent pas leur défaite. Ils sont jaloux de la sagesse et de l'intelligence d'Étienne. Ils ne en reviennent pas de voir la cohérence de sa pensée, la cohérence de ce mouvement, la cohérence de son attitude. Et voilà qu'ils vont en dehors de leur groupe chercher d'autres personnes pour causer du tort à Étienne. Des faux témoignages. Des faux témoignages qui portent sur la parole qu'Étienne n'a pas dite, mais qui va contre le judaïsme, contre les convictions du judaïsme. Il y a même une accusation qui porte aussi sur le temple, soi-disant que son Jésus allait détruire ce temple-là, ce temple était voué à l'échec. Alors tout cela a conduit les maîtres de la synagogue, les maîtres du temple, de se dire qu'il faudrait trouver une solution finale pour Étienne. Voilà qu'on va trouver une série de personnes pour aller pratiquement le menacer à mort. Étienne, malgré tout, il reste fidèle à son Dieu, fidèle dans son enseignement. Il me semble qu'en regardant ces débuts du ministère d'Étienne, une chose me frappe. C'est de voir que Étienne essaie de refléter l'image de Jésus lui-même. C'est Jésus qui faisait des signes, Étienne fait des signes. C'est Jésus qui prêchait à longueur de journée, Étienne fait la même chose. C'est Jésus qui était rempli d'humilité, de sagesse, d'Esprit Saint. Étienne l'est aussi. Mais en fait, il est pour faire connaître Jésus-Christ. C'est à nous de nous regarder, de suivre l'exemple d'Étienne. Être chrétien, c'est suivre la voie de Jésus. Quand on parle du disciple, c'est celui qui marche derrière. Le maître est au devant, le Messie est au devant, et nous, nous marchons derrière le Messie, nous marchons derrière le Seigneur. Alors, comme nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes appelés à marcher derrière lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher derrière lui? Marcher derrière lui veut dire suivre son enseignement, suivre la trace qu'il a proposée au devant de nous pour justement la construction d'un monde nouveau. Nous devons être ceux-là qui sont motivés pour suivre notre vocation de chrétien, c'est-à-dire de ressembler à Jésus-Christ, de refléter son image dans notre dire, dans notre faire. Voilà, ce qu'on peut demander au Seigneur ce matin, c'est son secours, sa présence, pour que, à notre niveau, nous arrivions à évangéliser à la manière d'Étienne, sans honte, sans peur, et que nous défendions notre foi dans la paix, dans la tranquillité, pas dans la violence. Et que nous soyons en mesure de refléter ce que Dieu voudrait à partir de notre cœur, qu'on soit ses témoins d'aujourd'hui. Dans l'évangile, c'est toujours le discours des témoins, en fait des témoignages, qui est au centre parce que après la multiplication de pain, Jésus s'est retiré et les foules commencent à le chercher. Et les foules ne savent pas où Jésus s'est pointé. Alors, elles se mettent à sa recherche continuellement. Et voilà qu'à un moment donné, les foules retrouvent Jésus à Capharnaüm. On lui pose la question, mais comment ça se fait que tu es là? On t'a cherché partout. Par quel moyen es-tu arrivé ici? Mais le Seigneur va droit au but. Il dit, écoutez, vous me cherchez, pas parce que vous avez vu des signes, pas parce que vous avez entendu la parole, mais c'est parce que vous avez mangé du pain que vous avez été rassasiés. Alors là, il les invite à avoir la même faim, à chercher la même nourriture, mais cette fois-ci, la nourriture spirituelle, la nourriture qui conduit à la vie éternelle. Ça, c'est une question fondamentale que chacune de nous peut se poser. Mais en fait, quelles sont nos motivations quand nous suivons Jésus-Christ? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Est-ce que c'est uniquement pour cette dimension corporelle, physique, matérielle de notre vie, de notre être? Ou bien il y a plus quelque chose de profondeur, quelque chose qui va le plus loin? C'est cette partie de l'âme, de l'homme intérieur, de l'esprit qui viennent au centre de nos préoccupations. C'est maintenant qu'il faudrait demander l'esprit du Seigneur pour que nous cherchions les choses, les réalités d'en haut, comme le dit Paul aux Colossiens et aux Colossiens, et que nous arrivions à chercher l'amour, la bonté, la bienfaisance, toutes ces valeurs-là qui élèvent, qui appellent à la fraternité, qui appellent à la paix. Ce sont ces valeurs-là que nous sommes appelés à chercher, dont nous devons avoir faim. Alors quand on va prendre l'Eucharistie maintenant, le Seigneur vivant, il va fortifier en nous ce désir de vivre pour le bien, ce désir de faire toujours le bien aux autres. Il va nous nourrir et ouvrir notre cœur à l'accomplissement de son message qui conduit au renouvellement de notre terre. Donc, à chaque jour, quand nous levons le matin, cherchons notre Seigneur. Cherchons-le d'abord pour les réalités d'en haut. Cherchons-le d'abord pour notre âme, pour notre esprit, pour l'homme intérieur. Et quand l'homme intérieur sera nourri, raffermi, alors la dimension extérieure, la dimension matérielle, apparaîtra à son niveau. Apparaîtra de sorte que, eh bien, elle est la place qu'il lui faut. Et en conjuguant les deux aspects, matériel et spirituel, nous allons vivre toute notre humanité parce que nous sommes des êtres spirituels, mais des êtres aussi matériels. Alors, en nous tournant aujourd'hui vers le Seigneur dans notre prière, Demandons cette grâce-là de ne jamais négliger la dimension spirituelle et de conjuguer toujours l'aspect spirituel et l'aspect matériel de notre vie. Amen.